France Inter.
Meta planifie d'investir de l'ordre de 60 milliards juste cette année, Microsoft 80 milliards, puis Amazon, Google, etc. En Europe, au niveau investissement, on a peur du risque. Des risques financiers, il n'y a pas assez d'argent à investir. Et puis effectivement, une peur qui mène à des réglementations qui parfois sont prématurées, sur des risques qui en fait n'existent pas et ça tue l'innovation.
L'un des pères de l'intelligence artificielle, le français Yann Lequin, qui travaille pour Meta, la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, il répond à nos confrères de l'AFP. Alors les Européens sont en retard sur l'IA, peur du risque et manque d'investissement. A contrario, Donald Trump a annoncé cette semaine son projet Stargate, 500 milliards pour l'IA. Comme toujours, c'est un message aux éventuels concurrents. Regardez mes muscles, ne vous donnez pas la peine, c'est déjà plié. Le monde aurait donc le choix entre une IA version américaine, développée notamment par des multimilliardaires virilistes, capables d'abandonner opportunément la modération des contenus, et puis une autre version chinoise qui se développe vite, à bas bruit, avec beaucoup moins d'argent, mais sans doute une IA chinoise formée pour ne pas répondre à la question « Que s'est-il passé ?» place Tiananmen en 1989. Alors y a-t-il une troisième voie ? Eh bien, une fois encore, l'Elysée en rêve. Avec dans 15 jours le sommet pour l'action sur l'IA à Paris et tout un discours sur l'intelligence artificielle des gentils. Elle serait éthique, elle serait frugale en énergie, elle serait inclusive. Il y aura à ce sommet l'Indien Narendra Modi, le coprésident du sommet. Il y aura Ursula von der Leyen, il y aura des chefs d'État, des grandes entreprises. Sam Altman d'OpenAI sera là. Mark Zuckerberg, Elon Musk, ils ont été invités bien sûr, mais viendront-ils ? On regardera le nombre de contrats, on regardera les investissements annoncés, combien d'argent et avec qui pour créer un autre écosystème. Sous la plume du directeur de la revue Le Grand Continent, je trouve cette citation excellente du boxeur Mike Tyson. Tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'il reçoive la première droite dans la figure. Eh bien, dans 15 jours, au sujet de l'IA, il faudrait donc taper très fort.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec une équipe du Mag'Écho en feu. Mon coproducteur Valentin Pérez, les réalisatrices Hélène Bizio et Céline Hilla, notre chasseur de son Joseph Ascal, au mix Corentin Rouchy et à la technique c'est Mathias Saléon qui nous accompagne ce matin. Ce samedi 25 janvier, nous allons revenir sur cet enlèvement spectaculaire d'une figure du monde des crypto-actifs. Est-ce que les professionnels de ce secteur sont aujourd'hui des cibles particulières et pourquoi ? Et nous parlerons aussi de ce nouveau monde florissant que le secteur des cryptos imagine déjà pour l'Ethereum, le Ripple, le Bitcoin. Vous entendrez le reportage de Paris à Davos de notre envoyée spéciale Mathilde Dehimy. Et nous aurons, pour décrypter tout ça, deux invités en plateau. Grégory Raymond, le cofondateur du média spécialisé The Big Whale, et Alexandre Stachchenko, le directeur de la stratégie de Paymium. C'est une plateforme d'échange des crypto-monnaies. Rendez-vous vers 9h40 pour l'interview. Nous avons aussi rendez-vous pour prendre des idées sur tout ce qu'il faut lire, les meilleurs bouquins d'écho. Ça, c'est avec Christian Chavagneux. Bonjour Christian.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Comme chaque dernier samedi du mois, c'est votre chronique L'écho à la page. Ce matin, qu'allez-vous nous recommander ?
Eh ben, on va se plonger dans le brouillard, on va regarder un bon petit film sur le canapé et je vais vous faire la promo d'un économiste libéral. Eh oui, tout arrive !
Alors, j'attends ça, ça sera juste avant 10h. Mais tout de suite, le débat avec Béatrice Mathieu de L'Express. Bonjour Béatrice.
Bonjour Alexandra.
On vous entend aussi tous les jeudis sur France Inter à 6h44 pour une chronique écho. Et l'économiste Anne-Laure Delatte est également avec nous. Salut Anne-Laure.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Donald Trump investit lundi, on n'a parlé que de lui, de ce nouveau monde à venir, de ce qu'il allait faire, le président des États-Unis ou pas. On a disséqué les décrets qu'il a signés, ses prises de parole, son discours à Davos. Toute cette philosophie du « vous êtes avec moi » ou alors « vous êtes contre moi », que signifie-t-elle concrètement pour nos économies, pour nous au quotidien ? Ça va être notre débat.
Mon message pour toutes les entreprises dans le monde est simple.
Donald Trump, président des États-Unis.
Venez fabriquer vos produits en Amérique et vous bénéficierez des impôts parmi les plus bas sur cette terre. Mais si vous ne les produisez pas aux États-Unis, ce qui est votre droit, alors très simplement, vous devrez payer des droits de douane.
Please, let's not hyperventilate.
N'hyperventilons pas. Nous devons prendre une grande respiration. Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Si nous rendons coup sur coup, que ce soit des droits de douane de 25%, 60%, et si nous revenons au niveau des années 1930, nous allons assister à des pertes à deux chiffres du PIB mondial. C'est catastrophique. Tout le monde va payer. Et les pays pauvres paieront le plus.
Passez-moi la grossièreté de l'expression, ça nous donne un grand coup de pied dans le derrière.
Patrick Martin, président du MEDEF.
Eh bien, c'est l'occasion ou jamais. Il faut appliquer sans aucun état d'âme les préconisations des rapports L'État et Draghi. On a la feuille de route. Les États-Unis, les ménages, les entreprises, l'État sont hyper endettés. L'Europe a une épargne nette colossale. Il faut dans l'urgence se remuscler.
Oui, les Américains restent nos alliés.
Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, chargé de la stratégie industrielle.
Mais ils vont défendre encore plus leurs intérêts et mettre en place ce qui avait déjà en réalité commencé avec l'administration précédente, c'est-à-dire un désengagement aussi des Américains un peu partout sur tous les continents, notamment en Europe. Mais les Européens doivent rester unis.
Je dirais que je suis d'accord avec le moment existentiel que nous traversons.
Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne.
Et un autre grand acteur de l'économie organise les choses d'une manière différente et menace certains des partenaires et des acteurs avec lesquels ce pays avait l'habitude de fonctionner. Et je pense qu'il s'agit là d'un signal d'alarme majeur qui peut amener les Européens à faire les choses différemment, à agir. Nous avons le talent, nous avons l'argent et nous avons les idées.
Béatrice Mathieu, je me tourne vers vous. Est-ce que, pour reprendre la formule de la patronne de l'OMC, on est tous en train d'hyperventiler ou est-ce que vraiment nous sommes en train de basculer dans un nouveau monde ?
Oui, je pense qu'on bascule vraiment dans un nouveau monde. En fait, cette bascule, elle avait déjà commencé. Là, on a un formidable coup d'accélérateur, un formidable, énorme coup d'accélérateur dans ce nouveau monde. Je vivrai trois marqueurs, en fait. Le premier, c'est la fin du multilatéralisme. On le voit bien avec, pour les États-Unis, la sortie de l'accord de Paris, de l'OMS, les menaces sur l'OTAN, la sortie de l'accord de l'OCDE sur la fiscalité minimale et celle des plateformes, et l'OMC qui est très bloquée. Et encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que les États-Unis, ça fait des années qu'ils ont bloqué l'organe d'appel de l'OCDE. De l'OMC. Le deuxième point, c'est le retour en arrière sur les engagements climatiques, et on y reviendra peut-être, avec un bémol peut-être qui est la limite du drill baby drill, c'est-à-dire le slogan de Trump sur Pompée, forêt, toujours plus, qui est, ça reste des businessmen et je pense qu'ils n'ont pas vraiment l'intérêt à déstabiliser totalement le marché du pétrole et du gaz avec des chutes très importantes de cours qui obéreraient en fait la rentabilité de leurs investissements. Le troisième point, eh bien, c'est le rejet de la norme, de la loi, de la réglementation et ça s'illustre, on croyait depuis la Seconde Guerre mondiale que les frontières étaient inaliénables, ce n'est pas le cas. Et puis c'est un autre exemple là en économie, c'est la dérégulation de la finance, toutes les attaques en fait sur, par exemple, les règles de Bâle.
Règles de prudence, on va dire ça comme ça.
Voilà.
Pour qu'elles ne fassent pas n'importe quoi avec l'argent de leurs clients.
Et on voit aux États-Unis les gendarmes financiers, que ce soit les patrons de la SEC ou d'autres autorités qui ont démissionné en cascade. Et pour ces trois raisons, en fait, l'Europe est l'ennemi numéro un, parce que l'Europe croit encore au multilatéralisme, l'Europe croit encore, même s'il y a un certain retrait à la transition verte, et l'Europe est une création de normes et de règlements. Et donc pour ça, pour ces trois raisons-là, je pense que l'Europe est l'ennemi numéro un des États-Unis, mais aussi de la Chine, mais aussi de la Russie, parce que l'Europe s'est construite sur ces trois piliers.
Anne-Laure Delatte, l'Europe ennemi numéro un, des reculs, dit Béatrice Mathieu, sur le multilatéralisme, sur l'environnement et sur tout ce qui crée des garde-fous en fait.
Oui, on était dans un monde en préparation ce basculement, comme vous dites. Il y avait l'Inde, la Hongrie, l'Argentine, presque l'Italie. Sauf que là, c'est les États-Unis. Et on a l'impression que c'est encore pire que le premier mandat de Trump. On va tous être touchés. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils touchent à des biens communs. C'est moins une question d'intégration financière et commerciale que vraiment, quand Trump sort de l'accord du climat, en fait, on va tous être touchés. Il va avoir beaucoup plus d'émissions carbone. Ça a été quantifié par un site britannique juste avant, quand il a été élu. On parle de plus de 4 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires d'ici 2030. Ça veut dire qu'on peut, a priori, dire adieu à l'objectif de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça, on va tous en souffrir. Autre chose, quand il dit « drill, baby drill », en fait, il va le faire dans des forêts nationales, à côté de parcs nationaux. Ça, c'est la fin de la biodiversité, ou en tout cas, c'est une très forte dégradation de la biodiversité. Bah, même nous, on va en souffrir, en fait. C'est pas seulement aux États-Unis. Un autre bien commun qu'il touche, c'est la santé. Quand il attaque l'OMS. Voilà, donc on va dans un autre monde, mais effectivement, mais plus brutal.
Plus brutal, mais à quel point il va vraiment pouvoir réaliser tout ce qu'il dit? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'il y a une demande pour tout le pétrole qu'il veut faire sortir du sol? Est-ce qu'il ne va pas se rendre compte que finalement, d'expulser les immigrés, ça fait de l'inflation? À quel point, vraiment, ça va nous toucher? Il va pouvoir implémenter toutes ces politiques?
Même s'il en implémente la moitié, on aura déjà un effet. Alors sur l'immigration, effectivement, on le dit beaucoup, étant donné que les restaurants américains tiennent sur les immigrés, ça va être compliqué pour lui. Sauf qu'en fait, vous avez quand même un discours performatif sur l'immigration et la brutalité. En fait, on peut penser à d'autres minorités qui vont être touchées par ce discours complètement décomplexé sur le fait que les migrants sont tous des voleurs, qu'il n'y a que deux sexes et que maintenant les transgenres, on n'en entend plus parler. Bon, voilà, donc il y a quand même un effet clairement retour des discriminations, pas de protection sur les minorités. Mmh. Et sur la demande en pétrole, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'encourager les énergies fossiles. Il revient complètement sur tout ce qui avait été fait par Biden sur les énergies renouvelables. C'est substituable, tout ça. Hein.
Et pour nos entreprises, Béatrice, je reviens en conséquence. On l'a déjà dit, on l'a déjà entendu, mais pour la compétitivité de nos entreprises, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que aussi la dérégulation financière dont vous avez parlé, ça peut libérer nos banques? Ou au contraire, elles sont entravées dans des régulations européennes et du coup, leur compétitivité est atteinte?
Mais bien sûr, et alors on voit le risque, mais le risque est déjà là. C'est-à-dire que les banques européennes sont en train de demander à retarder, à repousser en fait l'adoption de ces réglementations, avec le risque que tout ça débouche sur une nouvelle crise financière majeure qui serait supérieure ou pire que celle qu'on a eue en 2008. Et de façon générale, les entreprises elles vont s'adapter à ce nouveau. C'est toujours l'adaptation, c'est le fondement d'une entreprise. Et quand on voit par exemple ce qu'a fait Stellantis au lendemain du discours de Trump en disant nous on va investir 5 milliards de dollars aux États-Unis. Pourquoi ils investissent? Eh bien, parce que 40% en fait des importations de Stellantis aux États-Unis et de voitures étaient fabriquées au Canada et au Mexique. Et Trump a dit, moi, je vais mettre des droits de douane de 25% dans ces pays-là. Donc, du coup, Stellantis, on va investir aux États-Unis.
Alors, c'est là, oui.
Non, mais le problème, c'est que, en effet, vous ne pouvez pas demander au secteur productif, aux entreprises, au marché, de s'auto-réglementer. En fait, là, on est en train d'assister à une rupture des règles. En fait, les règles du jeu sont plus du tout les mêmes. Et qu'est-ce que vous voulez demander à des entreprises de dire « Ah ben non, moi je préférais quand il y avait des réglementations, je préférais quand vous me mettiez des bâtons dans les roues, entre guillemets. »
Mais alors
à l'État. C'est à l'État de revenir, c'est à l'Europe de revenir.
Alors justement, la question, c'est la réaction de l'Europe. Il y a eu déjà, Béatrice, cette semaine, des figures européennes qui ont dit, par exemple Ursula von der Leyen, elle dit on va être pragmatique. Est-ce qu'on a une réaction européenne? Est-ce que c'est assez haut niveau par rapport à ce qu'a dit Trump?
On a une réaction européenne, il faut regarder le discours et il faut regarder la réalité. Donc dans le discours, oui, on dit, la course est lancée, la bataille est lancée, on rentre dans un monde de rivalité géostratégique, etc. Et puis, il y a en même temps ce mot pragmatisme qui est d'une faiblesse mais terrible, ou même cette autre phrase qui dit « on va tendre la main à la Chine ». Ça ferait presque...
C'est toujours Ursula von der Leyen.
Ça ferait presque rire si ça n'était pas aussi grave, parce que je pense que la Chine... Pour les trois marqueurs que j'ai dit au début, considère que l'Europe est un ennemi aussi stratégique et dénonce en fait le modèle européen. Ce qu'on va voir clairement, c'est que la Chine, qui a pour la stabilité de son modèle aussi politique, a besoin d'exporter, que si les États-Unis et la Chine rentrent dans une bataille commerciale, eh bien, ils vont voir le marché européen, les Chinois vont voir le marché européen comme l'Eldorado pour exporter.
Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
Donc, moi, je pense qu'il faut assumer la puissance et que l'Europe a un problème avec le mot puissance. L'Europe n'assume pas sa puissance. Nous sommes un énorme marché. Nous avons des règles, nous avons des limites qui ont été fixé. Par exemple, sur le DSA, on a tout le Digital Service Act qui permet en fait de mettre des pénalités financières. On ne le met pas en place parce qu'on a peur d'assumer notre puissance.
Moi, il y a deux choses. La première, c'est quand vous entendez simplification réglementaire, il faut alléger le fardeau réglementaire, alléger le fardeau administratif. Ça me fait, moi, extrêmement peur. En fait, on avait mis en place le pacte vert, qui était un ensemble de lois qui permettait d'accompagner la transition écologique des entreprises européennes. Or, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une commissaire européenne qui propose une loi omnibus, c'est une simple loi, là, en janvier 2025, qui va être discutée au Parlement, et qui va affaiblir les trois grosses lois piliers de ce pacte vert. Notamment, vous aviez la vigilance des entreprises, le devoir de vigilance, où les entreprises doivent surveiller les abus environnementaux et les droits humains. À la demande de la France.
La qu'est-ce France que ça a changé d'avis là-dessus. Hein, ouais.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, au moment où on devrait justement être droit dans nos bottes et dire, en fait, la rationalité économique, elle nous demande d'investir aujourd'hui dans la transition, tout le retard qu'on prend, on le paiera beaucoup plus cher après. Donc il y a une vraie rationalité économique à être droit dans ses bottes et fort sur la réglementation, et on est en train de faire le contraire. On est en train de nous parler de compétitivité, d'assouplissement réglementaire, et c'est vraiment pas le moment.
Vers quel système économique, du coup, est-ce qu'on va, Béatrice Mathieu ?
Je pense qu'on va vers un système économique. Ce n'est pas la fin de la mondialisation, c'est une nouvelle forme de mondialisation, d'un monde extrêmement fragmenté autour de deux pôles, les États-Unis et la Chine, qui, à la fois pour leurs relations géopolitiques et commerciales, eh bien, vont se faire des bassins en fait, d'États inféodés. Et puis, c'est en face du MAGA, du Make America Great Again, en fait, c'est un capitalisme, c'est l'antithèse en fait, du capitalisme libéral.
Ça reste le capitalisme, mais ça n'est plus
du libéralisme économique où on avait en fait un État qui pouvait fixer un minimum de règles et une concurrence loyale qui se développait. Là, on est face à un capitalisme mafieux, d'oligarque.
Avec des vassaux, il va y avoir des vassaux et...
Voilà, ouais. Et des oligarques qui ont un système de prédation de la richesse créée.
Anne-Laure Delatte, vous voyez comment le système économique, on change de capitalisme ?
Premièrement, ça fait beaucoup penser aux barons voleurs au 19e siècle aux États-Unis, quand il y avait eu en fait le capitalisme industriel, pleine croissance, sauf que à ce moment-là, vous avez des grands industriels qui organisent leur monopole, qui en fait sont très violents avec leurs concurrents, qui exploitent leur main-d'œuvre. Et ça, c'est ce qu'on appelle les barons voleurs, c'est Carnegie, Rockefeller, JP Morgan. Vous trouver les mêmes, mais dans la nouvelle économie aujourd'hui. Dans la tech. Est-ce que c'est un nouveau capitalisme ? Est-ce que, surtout, je crois que la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une extension du capitalisme qu'on vient de vivre ? Est-ce que c'est une anomalie ou est-ce que c'est une extension ? Pour moi, c'est une extension. Non. L'extension absolument autoritaire, nationaliste. Mais finalement, c'est pas du tout les années 30, dans le sens où c'est encore du capitalisme, alors que les nazis et le fascisme, c'était pas du capitalisme. Là, c'est vraiment une économie de marché avec un État qui va être complètement au service, qui va être inféodé au service de ces gros oligarques.
Bon, et on va voir l'Europe...
Mais c'est l'inverse du capitalisme.
L'Europe, où elle sera.
C'est le néolibéralisme national. Non.
Béatrice Mathieu et Anne-Laure Delatte, on a essayé de faire un petit exercice de définition. Elles ont fait le Mag Éco ce samedi 25 janvier.
9h34, vous êtes toujours sur France Inter dans un On n'arrête pas l'écho consacré au monde qui nous arrive avec Donald Trump. Alors le secteur des cryptos, on n'en a pas encore parlé, il a beaucoup d'espoir aussi. Hein. On en parlera avec nos invités dans moins de 10 minutes, Grégory Raymond du média spécialisé The Big Whale et Alexandre Stachenko de la plateforme Paymium. Donald Trump a promis au secteur des cryptos des règles et des lois plus favorables. On parlait de la dérégulation il y a 5 secondes. Regardez d'ailleurs cette euphorie du Bitcoin, il vaut ce matin plus de 99 000 euros. Il y a 5 ans exactement, un Bitcoin, ça s'achetait 7500 euros. Est-ce que 2025 sera donc l'année du grand bond en avant pour ces crypto-actifs? En tout cas pour le grand public, ils ne font pas encore partie de notre quotidien. Juste une stat de la Banque de France, moins de 5% des Français détiennent du Bitcoin. Moins de 3% ont essayé de payer en Bitcoin. Et selon la dernière étude de l'association qui représente le secteur des crypto-actifs, ceux qui possèdent aujourd'hui des cryptos, c'est intéressant, ce sont surtout des 18-34 ans. Dans 7 cas sur 10, il s'agit d'un homme. On va vérifier ça sur le terrain. On sort du studio 521. Notre reporter Mathilde Dehimy a rendez-vous dans un bar du 5e arrondissement à Paris pour une réunion mensuelle des aficionados des cryptos.
Alors, je suis à ma première réunion Meetup Bitcoin. Vous l'entendez derrière moi, je ne suis pas seule. Et vous vous connaissez tous ?
Non, on ne se connaît pas tous, il y a beaucoup d'habitués. Mais il y a aussi pas mal de nouveaux, surtout avec la montée des prix en ce moment. Quand le prix est bas, il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Et puis quand le prix est haut, ça commence à attiser un peu la curiosité des gens. Parfois ils restent pas. Les gens s'intéressent à Bitcoin pour plein de raisons différentes. Il y en a, c'est pour l'épargne, il y en a, c'est pouvoir transacter librement. Il y en a, c'est un peu dans une pensée un peu anti-système, contre un système monétaire qui est un peu pourri. Il y en a, c'est aussi pour la spéculation. Il y a vraiment de tout.
Alors, on s'est un petit peu décalé avec le bruit. Je vais vous laisser vous présenter.
Mon nom un peu connu dans la crypto-monnaie, c'est Duc.
Je peux vous demander votre âge ?
68 ans. Alors là, il y a Trump, bon... Avec l'appui des Américains, le Bitcoin, il va monter. 150 000, 200 000, etc. On ne sait pas le temps qu'il va le mettre, mais c'est obligé qu'il va monter.
Qu'est-ce qui vous dérangeait fondamentalement dans le système bancaire actuel, dans les placements actuels ?
Ce qui me dérange, c'est le pouvoir des banques, le pouvoir de choisir si vous avez le droit d'ouvrir un compte ou pas. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'intéressez même pas les banques. Donc pour moi, c'est la plus grande des libertés qu'il y a dans le monde de la finance.
Vous allez payer comment votre verre ?
On peut payer Bitcoin ou euros, dollars. Non, le dollar, tu prends pas.
Hein. Non. Bon, je m'appelle Jean-François Paris, je suis le gérant, le propriétaire du restaurant L'Invité de Paris 5e. J'ai 41 ans. La plupart des gens qui sont là aiment bien payer en Bitcoin. En dehors des journées où il y a les meetups Bitcoin, on va dire que j'ai un paiement toutes les deux semaines en Bitcoin. C'est quoi 0,5% mes encaissements ? Voilà. Par contre, j'ai fait à peu près mes comptes à la fin décembre. J'ai encaissé environ pour 7000 euros de valorisation Bitcoin. Bah, aujourd'hui, la valorisation que j'ai, c'est 18000 euros. Enfin, 16 ou 17000, je ne vais pas regarder aujourd'hui, ça a baissé. Mais... Donc, je suis assez content déjà de mon choix. J'ai compris que je n'aurai pas de retraite. Donc, il faut trouver des solutions pour se protéger.
Je sors par là. Ça marche. Allez,
merci
bonne
beaucoup.
Soirée. À bientôt, au revoir. Le Bitcoin, c'est le cryptoactif originel. Lancé en 2008, ce nouveau système d'échange numérique s'appuie sur la technologie de la blockchain qui sécurise très fortement les données. Aujourd'hui, on compte près de 17 000 cryptoactifs comme l'Ethereum ou le Ripple. Tous sont susceptibles de voir leur valeur exploser puis chuter tout aussi brutalement. Une instabilité financière dont se méfient les banques centrales.
Bonjour, je suis Emmanuelle Assouan, je suis directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Bienvenue à la Banque de France.
Merci. Est-ce qu'on a une idée précise des échanges aujourd'hui en Bitcoin à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne et comment la France se situe dans tout ça ?
Le Bitcoin, on a une idée précise du cours, puisqu'il y a des cotations. Une idée un peu moins précise des transactions. Il y a un certain nombre de transactions qu'on ne peut pas voir, parce que le Bitcoin est utilisé aussi pour beaucoup d'économies informelles, noires, voire illégales, illicites. Et donc ces transactions-là, on ne les connaît pas. Donc on a une capitalisation boursière de l'ordre de 120 000 milliards de dollars. Et le Bitcoin, dans tout ça, c'est, on va dire, 1,5% de la capitalisation totale boursière. Donc c'est petit, marginal dans la grande masse financière mondiale des seules actions. C'est un investissement très risqué compte tenu de la volatilité et des variations. Certes à la hausse, mais aussi à la baisse énorme qu'on a pu observer en 2023 à la suite de plusieurs faillites retentissantes. C'est une pure valeur spéculative qui n'est reliée à aucun fondamental économique ou associé à l'économie réelle.
Qu'est-ce que l'Union, qu'est-ce que les banques centrales aujourd'hui font vis-à-vis de ces crypto-monnaies, crypto-actifs ?
On considère qu'il faut que ceux qui s'exposent, s'y exposent dans un environnement sécurisé, régulé. D'où cette loi Pacte de 2019 qui a beaucoup inspiré le règlement MiCA, qui est entré en vigueur en 2023 avec un déploiement progressif jusqu'à tout récemment et qui permet d'encadrer l'émission de cryptoactifs, les stablecoins, qui sont la seconde génération de cryptoactifs après les bitcoins, mais qui sont adossés à des réserves de valeur, des titres du Trésor, des comptes dans des banques.
Depuis un an, deux grands changements venus des États-Unis ont aidé les cryptos à acquérir de la respectabilité. D'abord, le gendarme boursier américain a fini par autoriser les ETF Bitcoin. Ces produits financiers permettent, sans posséder directement du Bitcoin, de réaliser un placement qui reproduit le niveau de sa performance financière. Autant dire une entrée par la grande porte à Wall Street. Second coup de pouce, l'élection triomphale de Donald Trump. Autrefois opposant aux cryptos, il veut désormais réaliser le plus grand rêve de ce secteur, assouplir les règles. D'ailleurs, clin d'œil ou coup marketing, le 47e président vient de lancer sa propre crypto, le Trump Coin, vite suivi du Melania Coin.
Crypto is back. It's dominating in Davos. It's dominating conversations. It's like Davos in 2020.
L'effervescence se ressent jusqu'en Suisse au Forum économique mondial de Davos où je me suis rendue. Mardi, une conférence s'est tenue ici sur le sujet et parmi les intervenants, Brian Armstrong, une voix qui porte à Washington. Il est le PDG de la plateforme d'échange de crypto Coinbase.
Pour moi, on est à l'aube d'un nouveau jour. Il ne faut pas oublier que ces quatre dernières années aux États-Unis, on était en milieu très hostile. Il n'y avait aucune clarté dans les règles et c'était fait délibérément contre nous. Certains dans l'administration Biden ont tenté de freiner ou même de tuer l'industrie crypto au mépris de la loi. Et donc, maintenant, avec la nouvelle équipe au pouvoir, nous avons les moyens d'obtenir des règles claires, une nouvelle législation que le Congrès votera, espérons-le, et cela apportera beaucoup de nouveaux investissements. À plus long terme, cela permettra d'accroître la liberté économique dans le monde.
Au regard du soutien américain, ici à Davos, on voit mal le cours du Bitcoin s'effondrer. Et on imagine déjà un futur radieux pour les cryptoactifs, comme pour la technologie blockchain qui l'accompagne. Lee Schneider a fait le déplacement entre New York et Davos. Il dirige Avalabs, l'un des acteurs qui travaille sur ces blockchains.
Can you introduce yourself, please?
Je m'appelle Lee Schneider. Je suis le directeur juridique d'Avalabs. Nous sommes une entreprise de technologie blockchain. Je pense vraiment que le Bitcoin et les autres crypto-actifs vont être de plus en plus connus et reconnus. On en parle tellement que de nombreuses entreprises classiques commencent à s'intéresser aux cryptos, à la technologie blockchain. Elles sont en train de réfléchir à la manière de les utiliser pour leur business au quotidien. C'est peut-être pas un tournant, nous sommes plutôt à un point d'inflexion. On se prépare à faire un grand saut.
Un saut de quelle ampleur ?
Un grand saut vers l'acceptabilité. À mon avis, les gens vont utiliser la technologie blockchain pour sécuriser numériquement de très nombreuses choses sur ce coffre-fort. Et cela inclura de l'or, des actions boursières, des certificats comme votre diplôme universitaire ou votre dossier médical. Beaucoup de choses seront tokenisées, c'est-à-dire sécurisé sur la blockchain. Ça apportera de la croissance, ça stimulera aussi le commerce, car beaucoup de ces instruments peuvent être échangés. Je pense donc qu'avec la blockchain, on pourra échanger du Bitcoin en parallèle de l'or, et tout ça en parallèle des actions boursières. Tout ça va devenir un marché très, très important.
⁇ 2025 sera-t-elle l'année du grand saut pour les cryptos ? C'était le reportage de Mathilde Dehimi.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et deux invités ce samedi pour continuer cette réflexion. Je les salue. Grégory Raymond, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être en plateau ce matin. Vous êtes le cofondateur du média spécialisé The Big Whale et vous venez de publier chez Talent Éditions ce livre Bitcoin, Crypto, l'enjeu du siècle. C'est tout notre sujet. Alexandre Stachtchenko, je vous salue également, bonjour, bienvenue.
Bonjour à tous.
Vous êtes le directeur de la stratégie de Paymium. Alors Paymium, c'est une plateforme...
Place de marché la plus ancienne, place de marché de crypto et de bitcoin encore en activité dans le monde, fondée en 2011 en France, et donc on fait de l'achat, de la vente et de la conservation de crypto.
On va parler évidemment de ce qu'on vient d'entendre là, le reportage Paris-Davos. Est-ce que 2025, c'est la grande année du saut dans la respectabilité, peut-être la démocratisation des bitcoins? Mais d'abord, je vous propose, si vous voulez bien, de revenir sur ce spectaculaire kidnapping cette semaine d'un cofondateur de Ledger et de sa compagne. Ledger, c'est une licorne française des cryptos. L'influenceur Asher a dit « Je ne suis plus vraiment surpris ». Il a déjà aussi été agressé chez lui. Est-ce que vous, Grégory Raymond, qui êtes un observateur du secteur, vous avez été surpris par cette histoire de kidnapping assez terrible ?
Surpris, oui, parce qu'elle est extrêmement violente, hein, mais ce n'est pas la seule. Hein. Il y en a eu quand même que... C'est la troisième en un mois dans la région France-Belgique. On peut se demander pourquoi. Bon, certes, les cours des cryptos sont assez hauts en ce moment, donc ça suscite forcément de l'intérêt de personnes mal intentionnées. Mais je pense qu'aussi, ces personnes-là, en fait, qui sont vraisemblablement quand même très riches, en fait, n'ont pas vraiment le niveau de sécurité adéquat, et surtout leurs proches non plus. Un patron du CAC 40 et ses proches, ils sont quand même plutôt bien protégés. Là, sur des influenceurs, sur des patrons de start-up, il n'y a peut-être pas le niveau en fait, de sécurité derrière en fait, pour faire face à ce genre de menace.
Alexandre Stachenko, vous aussi, vous dites, en fait, on le sait dans la communauté, on le sait très bien, il y a des histoires comme ça de kidnapping, voire pire peut-être ?
Alors, pire, oui, il y a déjà eu en France des meurtres d'étudiants de mémoire, c'était en Alsace et à Toulouse, des gens qui se font homejacker chez eux, et puis s'ils ne peuvent pas donner, bah, la suite est terrible. Moi, je n'ai pas été agressé physiquement, mais on m'a sim-swap, donc il y a quelqu'un qui a volé mon identité parce qu'il avait un complice chez un opérateur téléphonique, donc il prend mon numéro de téléphone, et ensuite, bah, c'est l'usurpation d'identité, donc c'est l'enfer.
Vous êtes un acteur, hein, vous ouais. vivez comme une cible, vous dites je suis la cible du crime organisé
oui.
peut-être ?
Alors, j'espère pas comme ça, mais je suis obligé de vivre avec ce problème-là, oui. Donc, on met en place des mesures de sécurité, mais le problème, c'est que quand on a 10 personnes surarmées qui arrivent chez vous, on peut faire ce qu'on veut, c'est compliqué. Donc, on le sait qu'on est la cible, on espère qu'il y aura aussi une ambiance médiatique et politique qui va changer autour de ce sujet-là, parce que depuis quelques années, souvent, quand on parle de Bitcoin et des cryptos, c'est pour parler de deux choses, soit de la criminalité, soit c'est un casino où on gagne plein d'argent. Oui. Et donc, en fait, on se rend compte que déjà les deux
c'est
sont...
C'est la face sombre. C'est ça, mais c'est la réalité aussi, vous venez de le dire tous les deux.
Bah, c'est non, aussi justement, la face c'est pas sombre. La réalité dans la mesure où même dans cette affaire-là, on parle d'une personne qui était particulièrement discrète. David Ballan, c'était pas le cofondateur le plus flambeur du monde. Et on parle aussi d'une affaire où, en fait, on a réussi à récupérer les fonds en un jour et demi, deux jours. Alors que, dans l'esprit du grand public, la crypto, c'est l'idéal pour envoyer des transactions intraçables, etc. Donc, il y a une ambiance qui n'est pas totalement vraie autour des cryptos et qui fait de nous des cibles malgré nous. Et donc, on espère évidemment que les malfrats qu'ils vont entendre de cette affaire-là, c'est que, bah, en fait, arrêtez, ça ne sert à rien. Vous allez vous faire attraper.
Grégory Raymond, intéressant. Hein. En effet, ces fonds, cette rançon dont une partie a été versée, en fait, les cryptos, ils ne circulent pas si facilement. On arrive à les geler, c'est ça qu'on
oui,
comprend.
Oui, on a pu les geler. En fait, on entend souvent, et à raison, hein, que le bitcoin est incensurable, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir sur une transaction, c'est vrai. Mais en fait, dès qu'on passe par un intermédiaire, par exemple, une plateforme d'échange comme Paymium ou plein d'autres, en fait, quand on veut convertir ces bitcoins ou d'autres cryptos contre d'autres cryptos, voire des euros, des dollars, en fait, là, on peut intervenir. Et c'est ce qui s'est passé. On a réussi, en fait, à mettre en place un système pour intervenir extrêmement vite. Et la majeure partie des fonds ont été gelés. Il faut vraiment souligner le travail qui a été fait à ce niveau-là. Et il y a une toute petite partie qui a bien été envoyée. Mais cette petite partie, en fait, va agir un peu comme une balise GPS. Et on va pouvoir suivre les fonds et donc les donneurs d'ordre. Parce qu'il y a quand même encore quelqu'un dans la nature pourra éventuellement se faire pincer. Parce qu'on peut tout tracer sur la blockchain.
Alors, vous avez entendu le reportage, vous étiez en studio avec moi. On était à Davos et le patron de Coinbase, Brian Armstrong, dit, je passe à autre chose là, il parle du monde nouveau, il dit que les cryptos sont à l'aube d'un jour nouveau parce que Donald Trump a fait un revirement à 180 degrés sur le sujet. Il disait que c'était de l'escroquerie. Là, il dit qu'il veut déréguler le secteur parce que c'est bon pour l'Amérique. Est-ce que, Alexandre Stachtchenko, vous pensez la même chose? Les cryptos sont à l'aube d'un grand saut, et je ne sais pas lequel il est.
Moi, je suis plus mitigé. Déjà, pour une première raison, c'est que il y a une distinction qui est très importante à faire entre Bitcoin et le monde des cryptos. Souvent, quand on parle des cryptos, on parle des cryptos comme une industrie ou un secteur qui serait homogène, alors que ça ne vient à l'idée, pour faire une analogie de personne, de dire le monde des actifs, et dedans, on met un Picasso, de l'immobilier, une obligation, une action, une chaise, enfin n'importe quel actif ou de la monnaie. C'est un peu ce que les gens font, en fait, quand ils parlent du monde des cryptos. Il y a Bitcoin, qui est un projet vraiment extrêmement singulier, qui a une prétention monétaire, après on peut avoir le débat oui ou non, mais en tout cas qui a une prétention à cela. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de fondateur, le truc vit depuis 15 ans, tout le monde essaye de l'arrêter, il n'y arrive pas, c'est incensurable, on l'a dit, donc c'est vraiment quelque chose qui est singulier. Et ensuite, dans le reste, il y a plein d'autres projets, la plupart, malheureusement, sont des arnaques, il y en a une partie qui sont des projets légitimes ou non, mais en tout cas des projets d'entreprise, et en fait, quand on fait cet amalgame-là, en fait, on se rend compte que Trump, du coup, ce qu'il a dit, c'est très mitigé, parce que on va faire cet amalgame en disant Bitcoin et crypto, alors qu'en réalité, quand il lance son Trumpcoin, quand il nomme à la tête de la SEC un de ses proches...
Le gendarme boursier, ouais.
Exactement. Alors que lui-même a fait une levée de fonds 2-3 jours avant. Je précise qu'avec l'ancien président du gendarme boursier, je pense qu'il serait déjà en procès. Donc tout ça ressemble beaucoup plus à du népotisme et du conflit d'intérêts, qui va... par effet de halo, avoir rejaillir une image négative sur Bitcoin, mais l'industrie crypto, avec beaucoup de guillemets, américaine, elle se réjouit. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle va vers de la dérégulation, et pour certaines de ces entreprises, elles étaient en procès avec l'autorité des marchés financiers américaines, donc forcément, elle se réjouit. Mais les bitcoiners en tant que tels, je termine là-dessus, les bitcoiners en tant que tels, eux, sont pas tous très contents de ce qui est en train de se passer. Ils sont un peu contents, parce qu'il y a quand même un peu de positif dans ce qu'il fait. Il protège l'autoconservation, il interdit les monnaies numériques de banque centrale. Ça, c'est très positif. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de choses...
Alors, on va revenir à cette histoire de monnaie numérique de banque centrale. Grégory Raymond, 2025, l'aube d'un nouveau jour. Mais en fait, Trump brouille le message. C'est ça que vient de nous dire Alexandre Stachtchenko.
Oui, c'est un peu ça. Mais moi, je voudrais donner un peu de contexte. Pourquoi on en est là? Pourquoi l'industrie crypto est à fond derrière Trump? C'est que pendant toute l'administration Biden, il y a eu quand même une politique extrêmement agressive de la part du gendarme financier américain à l'égard de l'industrie crypto. Parfois à raison, mais dans de très 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 nombreux cas, c'était perçu comme très agressif. Il y avait des procès qui étaient lancés absolument tout le temps. Donc en fait, à la fin, cette industrie qui comptait pas mal de partisans démocrates, en fait, au début, elle s'est dit on ne peut plus compter sur ce bord-là. Et quand Trump est arrivé et qu'il a commencé à faire des annonces plutôt pro-crypto, voilà, ça a ouvert les vannes. L'industrie américaine, et je parle bien juste de l'industrie crypto-américaine, aujourd'hui, elle est extrêmement proche de Trump.
Et la Trumpcoin, vous êtes d'accord tous les deux? Ça brouille le message, c'est mauvais?
Non, mais totalement, totalement. Et en plus, quand on veut faire des États-Unis la capitale de la crypto, quand on veut parler en bien de ce secteur-là, et que derrière, on lance quelque chose qui ne sert à rien, qui est ridicule, de surcroît, deux jours avant l'investiture, enfin... Ouais. On est dans une simulation, quoi.
À quoi ça sert? Dites-moi quand même, on se souvient du scandale FTX, de cette plateforme, justement, les gens ont perdu beaucoup, certaines personnes ont perdu beaucoup d'argent. À quoi ça va servir de déréguler? Est-ce qu'il n'y a pas un danger majeur dans cette promesse?
Alors, ce n'est pas exactement de la dérégulation. Alors, déjà, premièrement, typiquement, FTX, c'est exactement l'exemple de ce que je disais juste avant. FTX n'avait aucun bitcoin. FTX était aux Bahamas, avait son propre coin sur lequel il faisait de la fraude. Et les gens ont fait une forme d'amalgame en disant ouais, Bitcoin parce que en fait il y a coin dans le nom, quoi. Mais c'était à peu près tout. Mais c'était de la fraude comptable, en fait. Ils avaient même pas d'actifs de passif, ils volaient de l'argent aux gens. Deuxièmement, aux États-Unis, comme c'est le droit anglo-saxon, en fait il n'y a pas vraiment de régulation. C'est simplement justement le gendarme boursier qui faisait de la régulation par enforcement. Donc en fait, il interprétait des textes existants, qui parfois datent des années 30, en disant moi j'interprète ça pour dire que votre jeton c'est un titre financier, donc vous avez fait un appel à l'épargne publique non régulé, et donc je vous fais un procès. Mais il n'y a pas de cadre, il n'y a pas un texte qui dit voilà comment on encadre les cryptos XYZ. En Europe, on en a déjà un certain nombre de textes là-dessus. Et donc ce que veut l'industrie crypto-américaine, c'est pas tant de déréguler, parce qu'il n'y a pas de régulation. C'est de clarifier, de dire quelles sont les règles qui nous concernent. Est-ce qu'on est un titre financier ou pas? juste dites-le nous, d'accord, à un moment donné. Donc, d'une certaine façon, en se mettant à leur place, il y a une part qui comprend, qui dit, quand on veut se projeter dans un secteur, c'est mieux de savoir à quelle sauce on va être mangé.
Mais alors, justement, nous, vous venez de le dire, Grégory Raymond, nous, en Europe, on a une régulation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train encore de se jouer entre l'Europe, les États-Unis, une industrie crypto qui, chez nous, aurait des règles et là-bas, ça se jouerait différemment ?
Là, ce qu'on va voir, c'est que ça va exploser aux États-Unis dans le sens où il n'y a plus aucun frein à l'innovation, tandis qu'en France, pendant des années, on a beaucoup régulé, mais on a freiné aussi le financement des startups du secteur. Et en fait, on s'est focalisé sur la régulation, alors qu'il aurait peut-être fallu accompagner ce secteur-là et peut-être après réguler, quoi.
Et pourquoi vous dites que c'est l'enjeu du siècle, c'est le titre de votre livre ? En quoi c'est l'enjeu du siècle ? Et en quoi, en tant que, pour moi, auditrice de France Inter, je me dis pourquoi ça m'intéresse ? Pourquoi ça nous ferait du bien, les cryptos ?
Écoutez, les États-Unis sont à deux doigts de lancer une réserve nationale en crypto. La plupart des pays s'y intéressent. Je pense que dans un monde aussi où la dette n'a jamais été aussi importante, où l'incertitude en fait sur la stabilité des monnaies, des économies n'a jamais été aussi importante, je pense que Bitcoin surtout, en particulier, peut représenter une alternative intéressante. Et en tout cas, j'essaye d'expliquer dans ce livre pourquoi c'est le cas.
Alexandre Stachenko.
Alors l'enjeu du siècle, je ne sais pas, parce que le siècle est encore long et il semblerait plein de surprises, mais on peut le résumer assez facilement. Bitcoin, c'est l'internet de l'argent. Donc il y a deux choses particulières à avoir en tête, c'est que d'un point de vue du moyen de paiement, en fait, c'est en train de complètement révolutionner l'industrie du paiement, qui est une industrie qui en fait n'a pas fait sa mue à l'heure d'internet. Aujourd'hui, pour envoyer des fonds à l'étranger, ça prend 5 jours ouvrés, 5% ou 10% de fonds. Mais surtout, c'est un actif de réserve non censurable, neutre et international. Donc je vais le dire très rapidement, les BRICS cherchent à s'émanciper du dollar américain.
Brésil,
Bitcoin répond à 100% à leur cas d'usage. Donc demain, on peut aller vers un monde dans lequel l'étalon de commerce international, c'est Bitcoin. Est-ce que ça va le faire ou non ? Je ne sais pas, ça chacun peut se faire son avis, mais c'est la réponse à la question pourquoi il faut s'y intéresser. Parce que si vous ne vous intéressez pas à quelque chose qui a ce potentiel-là, vous risquez de passer à côté de quelque chose.
Alexandre Stachenko, le directeur de la stratégie de Paymium, et Grégory Raymond, le cofondateur du média spécialisé The Big Whale. Merci à vous deux d'avoir été sur
Merci
On n'arrête pas l'écho ce matin.
Merci beaucoup.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
L'écho à la page, c'est notre rendez-vous avec Christian Chavagneux d'Alternatives économiques. Chaque dernier samedi du mois, on a des recommandations de Christian pour lire les meilleurs livres. Alors ce samedi matin, Christian, où est-ce que vous nous emmenez ?
Eh bien, décembre 1930, vallée de la Meuse, côté belge, un brouillard dense s'installe, les yeux piquent, la gorge brûle, les gens et les animaux étouffent, il y a 60 morts. Les autorités scientifiques arrivent, bon, c'est un brouillard qui a rencontré des gens fragiles, bon, rien de particulier quoi. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est ce que montre bien le livre « Brouillard toxique, vallée de la Meuse, 1930, contre-enquête » par Alexis Zimmer aux éditions Amsterdam. Ce livre, c'est un véritable polar. On va faire l'autopsie des gens qui sont morts, on trouve du carbone pur dans les poumons. Des gens fragiles, ah oui, ça c'est sûr, ce sont des gens fragiles, tous les jours, ils respirent des émanations des usines locales dont l'énergie provient de quoi ? Du charbon. Alors le livre nous montre que les scientifiques connaissent la pollution, mais ils en négligent les effets. Et puis il faut bien s'industrialiser, ça donne du boulot à tous ces gens qui sont dans la vallée. Tout le livre démontre l'alliance entre les gouvernements, les scientifiques, les industriels pour taire les effets de la pollution industrielle. Je vous rassure, plus de problèmes, pièce par pièce. Il y a quelques décennies, l'usine a été démontée et remontée dans la banlieue de Pékin.
Et ensuite, vous nous avez promis, Christian, un film sur le canapé.
Oui, alors d'abord un livre, Le cinéma, partout et pour tous, une histoire des formats réduits de pâté en France, 1912-1939, par Elvira Chamary. C'est aux éditions Fondation, Jérôme Sédoux Pâté. Charles Pâté, on connaît, hein, le grand cinéaste du début du XXe siècle. Et le cinéma américain commence à le manger. Il dit, il faut que je rebondisse. 1922, il invente le pâté baby. Alors, un peu projecteur de 9,5 mm, ça fait toutes petites images. On loue des films ou alors on s'abonne à l'année pour le recevoir. Et qu'est-ce qu'on regarde dans son canapé ? Les actualités, Charlie Chaplin, Buster Keaton ou bien le Napoléon d'Abel Gance ou les premiers films de Fritz Lang. Ça se vend d'autant mieux qu'il y a des cinémas dans le coin. Donc il n'y a pas de concurrence entre les deux. Ensuite, il va chercher la clientèle rurale. 1924, ce sera le pâté rural. Toute cette histoire, elle est bien racontée et le livre est magnifiquement illustré. C'est aussi un très beau livre.
À quelles éditions, vous nous rappelez ?
Édition Fondation Jérôme Sédoux Pathé.
Allez, et il nous reste quelques secondes, un autre petit coup de cœur, ou gros coup de cœur, pour un auteur.
Adolphe Blanqui, 1798-1854, Le libéralisme contre les inégalités, par Francis Démier, aux presses universitaires de Rennes. J'ai choisi ce bouquin parce que j'adore Francis Démier, c'est un de nos meilleurs spécialistes du 19e siècle, et il nous dit, bon, Blanqui, c'est un petit économiste libéral tranquille, mais... En 1948, il fait un rapport en disant « Je dénonce les conditions du capitalisme français ». L'année d'après, il refait un rapport en disant « Les paysans ont des problèmes parce que les riches leur marchent dessus ». Ouh là 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 là, il remet en cause les dominants. Du coup, il va être mis de côté, il va diriger sa petite école de commerce.
L'écho à la page avec Christian Chavagneux.